France Culture. Question du soir. Quentin l'a fait.
Une enquête d'ONG révèle l'existence de 176 nouvelles bombes carbone, portant le total à 601 à travers le monde. Concrètement, autant de sites d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon, dont le potentiel d'émission finale de CO2 outrepasse le seuil d'une gigatonne. Alors, une question ce soir, la fin du pétrole est-elle un mirage? Peut-on cesser d'en consommer malgré ses découvertes récurrentes? Et quel impact sur la transition, sur la transformation de nos modes de consommation et de production? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Patrice Geoffron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur de l'équipe énergie. Climat, face à vous, Anna Créti, bonsoir.
Bonsoir.
À l'Université Paris-Dauphine également, vous êtes directrice de la chaire d'économie du climat. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Imaginez dépenser 11 fois votre budget, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec notre budget carbone. Les bombes carbone et les nouveaux projets d'extraction fossile après 2021 représentent plus de 11 fois la quantité de CO2 que l'on peut encore émettre avant de dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. C'est ce que montre la carte de notre site carbonbombs.org. On y trouve les bombes carbone, ces projets d'extraction fossile qui ont les plus gros potentiels d'émissions de CO2, ainsi que tous les nouveaux projets d'extraction fossile décidés après 2021, l'année après laquelle aucun nouveau projet d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon ne doit avoir lieu si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré.
Une vidéo publiée sur les réseaux de l'association Data for Good, et peut-être pour entamer cette discussion, quelques éléments de définition. Patrice Geoffron, de quoi s'agit-il lorsqu'on évoque les bombes carbone concrètement ?
Alors, ce sont des projets qui ont deux caractéristiques. Premièrement, d'avoir un potentiel d'émission très élevé, donc une gigatonne, un milliard de tonnes de CO2. Si on veut avoir un ordre de comparaison, chaque année au niveau mondial, on émet une cinquantaine de milliards de tonnes de CO2. Et puis, qui ont comme caractéristique d'avoir un cycle de vie très long, de potentiellement une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que les investisseurs qui aujourd'hui s'apprêtent à mettre de l'argent ou ont d'ores et déjà mis de l'argent dans ces projets imaginent de les rentabiliser sur le long terme. Donc ça crée dans notre jargon d'économiste un effet de lock-in, un effet d'enfermement. Une fois que le projet est là, il y a une rationalité à l'exploiter. Ça soulève aussi des questions de nature économique parce que pour ces investisseurs, il n'y a pas de garantie que la demande pendant 20 ans soit là et soit au rendez-vous. Donc à la fois, évidemment, il faut s'en effrayer parce que et l'AIE et d'autres, et le GIEC notamment l'ont dit, un bon baril de pétrole assez rapidement, c'est un baril qu'on laisse dans le sous-sol. Donc ça, c'est absolument essentiel de s'en convaincre. Mais ça veut dire aussi que pour les investisseurs qui mettent de l'argent dans ces projets, il y a quand même une épée de Damoclès qui est la manière dont la demande, et on parlera sans doute plus loin du pic pétrolier, la manière dont la demande est susceptible d'évoluer.
Est-ce qu'elle a du sens, cette expression tout de même, Anna Créti, cette expression de bombe carbone qui naturellement frappe l'esprit? Je veux dire par là qu'elle recouvre des situations extrêmement différentes. On parle de gaz, de pétrole, on parle de charbon, on évoque des petits projets, des très très gros projets. Les proportions varie du kit au du double au quintuple même d'un projet à l'autre. Est-ce que cela a du sens pour vous, pour la chercheuse que vous êtes ?
Je pense que la terminologie évoque plutôt l'urgence et dans la mesure où vous l'avez précisé, on a tous les ans cette publication des ONG qui nous montre cette géographie qui se densifie au lieu de se scarifier en fait. On voudrait bien que de bombes on passe aux étincelles, quelque chose qui revient en arrière, mais on est toujours dans une logique d'accumulation de ces projets et très souvent avec les mêmes compagnies à la fois dans ceux qui les exploitent et ceux qui les financent.
Une géographie qui se densifie, c'est effectivement l'inquiétude qui plane lorsque l'on s'intéresse à ce type d'annonce, Patrice Geoffron. Est-ce que ces découvertes amoindrissent notre capacité à lutter contre la consommation d'hydrocarbures? Est-ce que structurellement, dans ce domaine, on se trouve sur la pente de l'échec parce qu'on trouve de plus en plus, j'allais dire, d'énergie à exploiter?
De fait, il y a une évidence. On est 10 ans après la mise en œuvre, le début de la mise en œuvre et l'élaboration de l'accord de Paris. On n'a toujours pas une inversion des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on se réunit ce soir dans un contexte qui, de ce point de vue, ne permet pas, en tout cas, d'avancer des bonnes nouvelles en ayant à l'esprit que, voilà, le CO2 qui est émis aujourd'hui dans l'atmosphère, il aura encore au 22e siècle un impact sur l'effet de serre. Donc, évidemment, le fait que, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer dans les années 70, au moment des chocs pétroliers, à ce moment-là, c'était la crainte d'aboutir à la fin du siècle, à la dernière goutte du dernier litre du baril de pétrole, voilà, dans un univers à la Mad Max. Et en fait, au 22e siècle, ce qu'on découvre est très différent. En fait, la géologie, ce qu'a révélé la géologie, et puis par ailleurs, les évolutions des technologies permettent d'extraire du pétrole et des fossiles par ailleurs dans des conditions qu'on n'imaginait pas, qui n'étaient pas envisageables au XXe siècle. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que au XXe siècle, le débat s'est noué entre énergie renouvelable et énergie fossile. Et parce que la question qui se posait, encore une fois, et notamment pour les importateurs massifs que nous étions déjà en Europe et en France, la question c'était, est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie? Et aujourd'hui, on se retrouve avec trop d'énergie, de fait, et notamment trop de fossiles. Et en particulier, trop de fossiles par rapport à la vraie contrainte, qui est la contrainte climatique et l'accumulation des gaz à effet de serre. Et de ce point de vue, le fait qu'on en ait trouvé dans des tas d'endroits, y compris dans des endroits dans lesquels on peut tout à fait imaginer qu'il y a une légitimité à en extraire. Moi, ce qui me paraît fou à l'heure actuelle, c'est la politique américaine et le drill baby drill de Trump qui les États-Unis
appelle à forer encore.
Voilà, ça marchera sans doute pas, mais de fait, de s'orienter et d'envoyer un signal de cette nature alors qu'on est un des premiers grands émetteurs dès la fin du 19e siècle, c'est totalement fou. En revanche, que dans des pays africains aujourd'hui, on se dise que dans le sous-sol, il y a ces richesses, et d'imaginer d'être interdit de les exploiter parce que les pays du Nord dont nous sommes ont déjà saturé l'atmosphère avec des gaz à effet de serre, ça crée également des problèmes de cette nature. Donc c'est pas uniquement la question des bombes en absolu et du CO2, c'est également qui envisage de forer et qui, de ce point de vue, est plus ou moins légitime.
Je reviens un instant en accréti sur ce que vient de nous expliquer Patrice Geoffron. On pensait dans les années 70 qu'au début du 21e siècle, il n'y aurait peut-être plus une goutte de pétrole à exploiter. Qu'est-ce qui s'est transformé? Qu'est-ce qui a changé les choses? Est-ce que c'est la découverte de ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel et de ses techniques multiples, notamment la fracture hydraulique, la fracture nucléaire?
Alors, disons que il y a dans cette crainte aussi l'héritage des années 70 et de la crise pétrolière. Crise qui était pas une crise de la quantité, mais surtout une crise politique de la gestion de ces réserves et qui perdure par ailleurs. C'est une offre assez concentrée et qui avait vraiment inspiré ces narratifs de on va manquer de pétrole et par ailleurs avait aussi suscité toute une campagne de sobriété, efficacité énergétique que depuis on a oublié. Mais de fait, c'est un secteur dans lequel on n'a jamais cessé d'investir. Les résultats de nouvelles techniques de forage ne sont que l'accumulation des différents essais, de différents brevets, des différentes façons donc d'extraire ces fossiles. Ça dépend de leur qualité géologique. Et d'ailleurs, on continue à faire encore de ce qu'on appelle l'exploration. C'est-à-dire, on va chercher quand même, c'était très au large dans la mer. Et d'ailleurs, on explique aussi pourquoi l'Alaska est une terre très convoitée, parce que très riche de ces puits de pétrole et de gaz, donc non conventionnels. Et on a aussi les possibilités qui sont un peu duales, c'est-à-dire que certaines technologies qui aujourd'hui peuvent en quelque sorte nous aider dans la réduction des émissions, donc tout ce qui est capture du CO2, peuvent également devenir en fait une sorte de moyen de redonner de la pression au forage pétrolier et donc aller chercher sans changer d'endroit des gisements qui sont encore plus profond. Donc on est véritablement sur l'attention à certaines technologies qu'il faut traiter avec beaucoup de précautions.
La voix d'un ingénieur que vous connaissez l'un et l'autre, Jean-Marc Jancovici, il explique concrètement ce qu'est un pic pétrolier.
Tout ce sur quoi on a basé ce qu'on appelle le développement, c'est les combustibles fossiles. Enfin, 50 à 300 millions d'années pour les former. Donc on peut considérer qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, 2000 ans, 500 ans, 100 ans, pour combien de temps ça va durer encore, on peut considérer que le stock de départ est donné une fois pour toutes. D'accord ? Donc sous la Terre, il y a une quantité donnée de combustibles fossiles et le stock ne sera pas réévalué en cours de partie. On peut considérer que ce stock, on ne le connaît pas exactement encore sur le bout des doigts, etc. Mais la seule chose qui est certaine, à cause du processus de formation, c'est qu'il n'augmentera pas en cours de partie. Quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, et que vous ne pourrez plus jamais réalimenter, en fait, les mathématiques vous disent qu'en pareil cas, vous n'avez qu'une seule forme globale de courbe qui est autorisée, c'est que si vous remontez suffisamment loin dans le temps, la consommation est nulle. Si vous allez suffisamment loin dans le temps, la consommation sera de nouveau nulle, et quelque part entre les deux, elle passera par un maximum absolu. Que dans le jargon des gens qui s'intéressent au pétrole, et par extension aux ressources naturelles non renouvelables, on a coutume d'appeler le pic.
Alors on a besoin de vos lumières ce soir. Si l'on écoute l'Agence internationale de l'énergie, le pic pétrolier se trouverait à peu près aux alentours de la fin de la décennie en 2029. En revanche, si l'on écoute cette fois-ci l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le pic pétrolier se situerait entre 2045 et 2050. D'abord, pourquoi est-ce que cette notion-là, celle de pic pétrolier, est intéressante, pertinente selon vous pour comprendre le monde dans lequel nous sommes? Et ensuite, qui croire entre l'Agence internationale de l'énergie et l'OPEP? Patrice Geoffron, pour commencer.
Alors, il faut distinguer deux types de pics. Il y a un pic qui nous vient du XXe siècle et qui évoque Jean-Marc Jancovici, qui est qu'à partir du moment où on a un stock fini de fossiles et que ça met des millions d'années à se renouveler, il est évident qu'à un moment, si on devait continuer à utiliser des fossiles, on va buter sur ce pic de production, un pic dans les découvertes. Et à ce moment-là, l'idée du pic pétrolier qui vient du XXe siècle, elle dit que les prix doivent monter. Et donc, il y a une espèce de grande frayeur qui naît de cette notion du pic pétrolier. Mais la vérité, c'est qu'en fait...
Les prix vont augmenter une fois que le pic a été
voilà,
passé.
Schématiquement. Mais la réalité, c'est pas exactement ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt une surproduction de pétrole. Et si on parle là de bombe climatique, c'est quand même, si j'ai bien compris le thème de la discussion, c'est bien qu'on n'est pas en train de buter sur un pic de l'offre. En revanche, et c'est votre question à propos de la différence entre l'Agence internationale de l'énergie et l'OPEP, on va plutôt buter, et le plus tôt sera le mieux, sur un pic de demande. Et ce qu'évoque l'Agence internationale de l'énergie, c'est le moment où des technologies de substitution au pétrole, le véhicule électrique par exemple, et notamment sous l'impulsion de ce que la Chine met en œuvre, est de nature à réduire, à stabiliser, puis à réduire la demande de pétrole. Et de ce point de vue, il y a deux visions qui s'opposent, mais qui ne sont pas non plus à des années-lumière. Il y a la vision de l'AIE, et disons... Et qui est également une vision assez européenne par ailleurs, qui consiste à dire que ce pic va être atteint aux alentours de 2030. Et l'OPEP dit que notamment sous l'impulsion de la demande des pays les moins avancés, qui sont les pays émergents, et puis par ailleurs les pays d'Afrique, notamment pour la partie de l'Afrique qui aujourd'hui a un accès très limité à l'énergie, il y a encore un potentiel de demande. Mais ça se fera quelque part aux alentours de 2030, aux alentours de 2040, mais c'est le pic de la demande. Et ce pic, et c'est bien le problème, il ne va pas être dicté par la raréfaction du pétrole et du gaz par ailleurs et du charbon. On en a de fait beaucoup trop et les termes du débat ont totalement changé entre le XXe siècle et le XXIe siècle.
On va parler du pic de demande dans un second temps parce que c'est fondamental de comprendre justement comment celui-ci peut advenir. Je reste un instant, Anna Créti, sur le pic pétrolier du point de vue de l'offre. Qui croire justement, selon vous, entre l'Agence internationale de l'énergie et l'OPEP? On se dit peut-être que l'OPEP a un conflit d'intérêt, a pas forcément intérêt justement à annoncer une fin rapide du pétrole.
Il parle du pic de demande, hein, l'un et l'autre.
Il les appelle comme ça, mais après, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une vision plus... qui soutient en fait la production de pétrole. Je voudrais quand même spécifier, puisqu'on parlait tout à l'heure de technologie, que les raisonnements sur l'exploitation des ressources finies, comme les ressources fossiles, dépend aussi du coût des technologies qui permettent de les exploiter. Et donc la raison pour laquelle historiquement on a vu ces pics passer, donc on a dépassé plusieurs fois les pics, c'est aussi parce que quand on fait les évaluations des réserves connues, on le mesure par rapport aussi aux technologies connues au moment où on fait cette sorte d'inventaire. Et ce qu'on a vu historiquement, c'est que dans la mesure où on n'a pas encore vu les prix du pétrole s'effondrer de façon drastique, alors ils ont pu avoir des hauts et des bas, c'est leur caractéristique d'être volatile, ces prix du pétrole n'a cessé de donner quand même l'espoir et d'aller plus loin dans les moyens d'explorer et donc d'atteindre ces fameux gisements dont on parlait, la fracturation hydraulique ou d'autres technologies dont les brevets sont détenus par les producteurs de pétrole et en très grande partie par l'OPEP. Après, la réalité de l'offre des pays producteurs de pétrole, et notamment l'OPEP, a depuis longtemps déconnecté en fait sa disponibilité de ressources entre les ressources géologiques. Je pense que l'Arabie Saoudite flotte quelque part sur les pétroles, et la réalité économique, parce que l'OPEP fait un peu la banque centrale du pétrole en fonction de là où il veut que les prix mondiaux arrivent. Donc les conflits d'intérêts, il est bien là dans la mesure où de toute façon, ils détiennent dans ces grands duels entre les États-Unis et l'OPEP. Pour l'instant, ils ont quand même eu les derniers mots sur les producteurs qui va déterminer les prix mondiaux du pétrole.
Comment faire, Patrice Geoffron, pour s'approcher plus vite, un peu plus vite, de ce pic de demande en matière de pétrole? Est-ce qu'il faut rendre les énergies renouvelables plus rentables? Est-ce qu'il faut mieux encadrer, justement, ces brevets accordés aux gisements et à l'exploitation des gisements de pétrole? Comment est-ce que la politique publique peut intervenir, justement, pour accélérer ce rapprochement vers le pic de demande?
Il faut avoir à l'esprit que le monde, en quelque sorte, est divisé en deux parties de ce point de vue. Il y a les pays les plus avancés, les pays de l'OCDE, qui pour la plupart ont déjà commencé à réduire, et très significativement. En Europe, on est à peu près à moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, même un peu mieux encore. Et ça veut dire qu'on a également, ce faisant, réduit nos usages de divers fossiles, et notamment du pétrole. Mais la réalité, c'est que ça n'est pas le cas, et c'est bien ce qui crée les tensions entre, et notamment ce qui donne une rationalité à la vision qui est promue par l'OPEP, de dire que dans le reste du monde, et notamment pour la mobilité ou pour d'autres types d'usages, par exemple dans la chimie, le pétrole reste tout de même central. Et comme on vient pas buter sur des contraintes qui sont des contraintes physiques dans l'état actuel des choses, hein, ce qui nous réunit ce soir encore une fois, c'est le fait qu'il y en a trop et non pas le fait qu'on en manque, eh bien, il me semble qu'il y a deux conditions. Une première condition, c'est la constance dans les pays de l'OCDE, dans leur politique publique d'appui à la décarbonation, notamment dans le domaine des transports. Eh ben, c'est pas exactement ce qu'on voit. Si on prend le cas de la France, on voit bien qu'il y a une politique dans ce domaine qui est plutôt hésitante. Et si on regarde la dynamique de la France en termes de décarbonation, on a beaucoup avancé dans beaucoup de secteurs, dans tous les secteurs sauf un: les transports. Et dans le domaine des transports, en fait, on est plutôt stable depuis les années 90. Donc ça veut dire que dans ce domaine, il faut être en mesure d'envoyer, notamment aux consommateurs, plutôt un signe, et puis par ailleurs aux producteurs, hein, notamment en matière automobile, des signaux de constance, et on peut pas dire que ce soit le cas. Vous prenez le cas de politiques comme par exemple le leasing, qui est l'accès pour les ménages qui ont des revenus modestes ou moyens aux véhicules électriques, on peut pas dire que le gouvernement qui a eu originellement une bonne idée, il ait été constant dans ce domaine. Donc il faut être constant. On peut pas dire qu'aux États-Unis on soit très constant non plus, c'est même l'inverse, hein, puisque entre Trump et Biden et Trump, on a un effet de yo-yo qui est d'une grande violence, évidemment. Donc il faudrait que les pays les plus avancés soient plus constants, et puis il faudrait que, notamment sous l'impulsion de la manière dont la Chine accélère le déploiement de technologies décarbonées, ces technologies puissent être plus directement accessibles aux pays les moins avancés. C'est un enjeu considérable.
Et dans le même temps, Patrick Geoffron, vous parlez à juste titre, parce que c'est central, fondamental, des transports, mais la dépendance au pétrole est tout de même bien plus large, Anna Créti, lorsqu'on parle des engrais, lorsqu'on parle, j'allais dire, de notre relation au plastique. La dépendance au pétrole, elle est structurelle, elle innerve à peu près tous les modes de production et de consommation existants aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'opposition énergie renouvelable pétrole en soi n'est pas légitime, dans la mesure où on ne produit plus de l'électricité avec le pétrole depuis longtemps. Sauf dans les pays où les générateurs diesel sont utilisés parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc on parle des pays du sud global. Donc les usages vis-à-vis desquels on n'a pas la possibilité, on va dire, c'est plus compliqué de trouver des substituts, effectivement, c'est la mobilité, la chimie, avec tous les usages, qu'ils soient agricoles ou le plastique. Et en fait, il faut rationaliser aussi dans ces usages, parce que, prenons le plastique, il y a des usages du plastique dans les milieux médicaux, dans lesquels il n'y a pas mieux. En revanche, les plastiques pour les emballages et donc tout ce qui concerne l'économie circulaire, le recyclage, la collecte de ces déchets, oui, là, il y a des marges de manœuvre. Mais encore une fois, on a cette dualité pays du Nord, pays du Sud. Récemment, j'ai vu le problème justement du recyclage, collecte, recyclage du plastique en Afrique. On est encore au balbutiement de ce qu'on pourrait obtenir. Donc, encore une fois, il y a une logique qui est la logique de il faut changer les usages, parce qu'il ne s'agit même pas de les substituer, il faut vraiment les changer. Et après, il y a la réalité économique et des deux vitesses à lesquelles on traite en fait ces problèmes de substitution.
Je voudrais qu'on s'intéresse un instant à la responsabilité de différents acteurs dans la consommation, la production croissante d'hydrocarbures, et notamment qu'on commence par s'intéresser à la responsabilité des banques. Les banques françaises sont, après celles du Royaume-Uni, les deuxièmes financeurs européens sur des projets d'hydrocarbures. 88 milliards de dollars, 76 milliards d'euros ont été investis par les banques françaises dans ce domaine l'an passé. On va citer ces banques, c'est une information d'intérêt public. 26,6 milliards pour le Crédit Agricole, 23,2 milliards de dollars pour la Société Générale, 20 milliards pour BNP Paribas, 18 milliards pour le groupe BPCE qui regroupe la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne et la BPCE. Donc ce sont des informations non pas pour l'an dernier mais pour la période 2021-2024. Patrice Geoffron, concrètement, ces banques en général, les banques françaises en particulier, qu'est-ce qu'elles viennent appuyer comme type de projet?
Alors, ça peut être assez variable de l'une à l'autre, mais il est intéressant de voir le contexte, et notamment sur la base de ce que l'Agence internationale de l'énergie a dit assez récemment, en disant, attention, et c'est assez paradoxal par rapport à la notion de bombe par ailleurs, mais en tout cas, grosso modo, la plupart des investissements actuels en matière pétrolière sont des investissements qui conduisent à étendre la durée de vie de sites d'exploitation en cours, et la menace telle qu'elle est pointée du doigt par l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'on ait une attrition, une réduction des capacités de production assez rapidement, notamment au regard de ce qu'est la demande dans les pays émergents. Et donc, si on prend ce contexte, la rationalité finalement du côté des banques, c'est de dire attention, si on enlève les financements du jour au lendemain, et si on fait ce qu'ont fait certaines banques françaises, assez peu d'ailleurs, mais qui ont été très volontaristes, la Banque Postale par ailleurs, il est important de les citer, eh bien à ce moment-là, on ne renouvelle pas la capacité de production. Au lieu d'avoir une transition, on a un risque de de baisse drastique des volumes de production. Je ne soutiens pas nécessairement ce point de vue, mais
c'est le rationnel que les banques présentent ou c'est le rationnel, j'allais dire, d'intérêt général que vous pointez là ?
Alors, l'intérêt général, il est évidemment à ce que on n'ait pas une fermeture du jour au lendemain du robinet pétrolier. Mais de fait, c'est pas exactement la menace. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment on opère une transition. Et là, il faut aller regarder. De la même manière qu'il faut regarder ce que font les majors pétrolières, par exemple, il faut aller regarder les plans de transition des banques. Et donc, il y a encore des banques qui financent aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder les engagements qu'elles prennent à 2030, à 2035 et au-delà.
Et donc, dans ce domaine ?
Alors, dans ce domaine, on trouve, comme pour les majors pétrolières, à boire et à manger. Certaines majors, par exemple, si on y vient, ont fait ont appuyé sur le frein très violemment. Si on prend le cas de BP et de Shell, qui étaient les deux majors européennes qui se sont engagées, les premières, et notamment BP, avec des ambitions de décarbonation très rapidement, elles ont été rappelées à l'ordre par leurs actionnaires. Et leurs actionnaires les ont conduits pour BP à abandonner assez largement ce type d'ambition et à les réduire fortement pour Shell. Pour Total, c'est un peu plus nuancé. Et donc, ça nous ramène à la question de départ. Comment on opère une transition et à quel rythme? Et à quel rythme, étant donné qu'il y a également, en regard de ça, une incertitude sur la demande?
Anna Créti, si je puis dire, comment amoindrir l'intérêt que les banques auraient à investir dans ce type de projet, la rentabilité dans le fond de ce type de projet lié à l'exploitation des hydrocarbures reste toujours plus forte structurellement que le rendement apporté par des projets liés à des énergies renouvelables ?
Alors, je pense qu'il faut regarder l'autre face du pétrole en tant que commodité financière. Là, jusqu'à présent, on a parlé des usages qui sont des usages du pétrole en tant que matière, en tant que énergie. À savoir qu'un baril de pétrole qui est produit, il y a 10 000 transactions qui sont derrière ce baril et qui ont lieu dans les jours après son extraction.
C'est-à-dire que
le pétrole est la commodité la plus utilisée dans tous les portefeuilles mondiaux, ce qui en fait une attractivité pas seulement par rapport au fait qu'il y a des projets où on extrait et c'est rentable, mais c'est une véritable commodité financière. Donc les banques sont un peu dans un double lien, qui est celui d'être investisseur dans des projets qui sont des projets d'extraction qui sont physiques, mais ils ont en fait du pétrole pratiquement partout. Et c'est la raison pour laquelle on dit, nous, en tant que consommateurs, on pollue d'une part pour ce qu'on consomme et d'autre part pour notre épargne. Parce que on ne les voit pas, les barils de pétrole, mais on vit dans une économie dans laquelle faire du commerce du pétrole donnait énormément de stabilité à toutes les transactions financières des banques, des assurances, de tous les systèmes. Ce n'est que de façon plus récente, qu'on commence à dire il faut réguler cela. Il faut avoir aussi, parce que c'est aussi une vulnérabilité des banques et du système financier. Dans les moments où on dit on fait la transition, de la même façon où nos économies seront en danger, si du jour au lendemain on arrête l'usage du pétrole, on aura aussi une crise systémique des banques. Mais on avance sur ça parce que aujourd'hui, il y a d'abord, on essaye de comprendre les degrés d'exposition des banques à ces commodités fossiles et via aussi des réglementations qui sont des réglementations prudentielles d'une part et bancaires de l'autre, de atténuer justement. Alors pour l'instant, on a attaqué une part de leurs activités, c'est-à-dire tout ce qui est les emprunts, mais pas toutes les formes de crédit.
La voix de Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie, il s'exprimait lors d'une audition au Sénat, c'était le 29 avril 2024.
La demande de pétrole continue à monter, pas à cause de nous, pays développés, occidentaux, mais parce que les pays émergents, la population croît, aspiration à un meilleur niveau de vie. Donc le système A, c'est pas moi qui le fait croître, c'est la demande qui le fait croître. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que le monde de l'industrie pétrolière, nous investissons beaucoup moins qu'en 2015. En 2015, on investissait 700 milliards dans le pétrole et le gaz. Cette année, c'est 500 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a la transition. Et donc, on met plus d'argent dans les nouvelles énergies, on en met moins dans le pétrole. D'ailleurs, pour Total Energy, lorsque j'ai une ambition de net zéro 2050, comme je ne suis pas l'Arabie Saoudite, hein, nous ne sommes pas un gisement éternel, on a une durée de vie devant nous de 20 ans, 18 ans. Donc, nous savons ce qu'il faut faire en 2035 si on voit la demande commencer à baisser, atteindre 4% de déclin. On laissera baisser l'investissement dans le monde du pétrole. Et 4% par an en 15 ans, ça fait 60%. Je peux vous dire qu'il ne me restera plus beaucoup de production de pétrole en 2050.
Nous investissons moins, disait Patrick Pouyanné, en 2024. C'est la faute de la demande si la consommation d'hydrocarbures augmente, ajoutait-il. Fin septembre dernier, 2025, donc, en présentant à New York sa stratégie aux investisseurs, Total Energy a confirmé cependant un objectif d'une croissance de sa production d'hydrocarbures de 3% par an d'ici à 2030. Alors, comment réunir, Patrice Geoffron, ces deux discours, ces chiffres qui semblent a priori un peu contradictoires?
En tout cas, la difficulté face à laquelle se trouvent les pétroliers, et notamment les pétroliers européens, c'est est-il possible de convaincre les actionnaires d'une stratégie de diversification progressive? La volonté de Total, depuis quelques années, c'est progressivement de faire monter la production d'électricité et puis des investissements dans des bornes de recharge, des investissements massifs, par exemple en Inde, dans le photovoltaïque, et de convaincre les investisseurs, y compris aux États-Unis, que c'est une stratégie qui est une stratégie profitable, notamment en ce sens qu'elle va diversifier les risques. Le prix du pétrole est en train de baisser en ce moment. Les investissements en matière électrique peuvent permettre de soutenir la rentabilité. Le problème, c'est que dans le monde pétrolier, notamment aux États-Unis, c'est pas exactement l'approche qui a été retenue. L'approche, elle est plutôt de dire, du côté des investisseurs américains, écoutez, si je veux investir dans le pétrole, j'ai besoin de pétroliers. Si je veux investir dans les renouvelables, j'ai besoin d'acteurs dans les renouvelables. Et je me débrouillerai à mixer ces deux investissements si j'ai besoin de...
Donc on demande pas aux majors d'avancer sur deux jambes, si je puis dire, pétrole d'un côté, énergie renouvelable de l'autre.
On peut tout à fait leur demander, globalement, à deux exceptions près, et sous réserve de ce que pourra dire Anna, il me semble qu'il y a et Total et Eni qui ont maintenu des ambitions, disons, de décarbonation, alors évidemment insuffisante par rapport au mur, mais néanmoins plutôt en gardant une sorte de cap. Ça n'est pas le cas des autres européennes, je l'ai déjà évoqué, de BP et de Shell. Et puis de toute façon, les Américaines sont pas dans un contexte dans lequel il n'y a ni la volonté ni un espace économique, a fortiori sous Trump, qui permet de se diversifier.
Comment vous réagissez, Anna Créti, lorsque vous entendez le PDG de Total Energy expliquer que, dans le fond, c'est la faute de la demande qui augmente et pas la responsabilité des producteurs?
Je pense que c'est un argument que plus ou moins tous les pétroliers ont utilisé.
Est-ce que c'est fondé?
En partie, c'est vrai dans la mesure où on regarde, en fait, quand on parle des usages du pétrole et des émissions de CO2 qui sont associées, il y a les émissions qui sont en amont, qui sont dues au processus d'extraction et à l'usage donc de ces fossiles dans les processus de production. Et après, il y a la grande majorité des émissions qui viennent effectivement de l'usage, donc de l'aval. Moi, je pense que ces discours qui a été réitéré plusieurs années n'est plus audible. Dans la mesure où ça serait un peu, comment dire, trop passif de dire voilà, on va suivre la demande. On vient de dire que dans la demande, il y a des difficultés quand même de substitution et des forces d'inertie qui sont importantes. Donc une major pétrolière, n'importe laquelle, doit aussi maîtriser toutes sortes d'émissions de CO2. Donc déjà, avant de parler des émissions qui sont dues à la demande, il y a aussi celle en amont. Après, je pense aussi que dans les 3% de croissance dont on parle, et à nouveau, on pourrait faire l'inventaire des autres pétroliers aussi, il y a la différence entre les pétroles et les gaz. Les gaz est aussi un peu particulier dans la mesure où Je ne dis pas que c'est une solution, mais c'est effectivement ce qu'on appelle l'énergie de passage, un pont vers la décarbonation. D'une part, parce que il est un peu moins polluant que le pétrole. D'autre part, parce qu'il peut servir les pays du sud global. Et troisièmement, parce qu'il sert aussi à produire de l'électricité. Et si on veut aussi que les majors diversifient leurs activités, il faut les amener aussi à produire de l'électricité. Alors, il y aura des renouvelables et du gaz.
Et les États, Patrice Geoffron, si on en vient à leur responsabilité, si on retourne, j'allais dire, à la lumière qu'on a portée en début d'émission sur ces fameuses bombes climatiques, pour que ces bombes climatiques existent, il faut bien que des États délivrent des licences d'exploitation des gisements fossiles, qu'elles autorisent ces exploitations. Alors, quelle est la responsabilité des États concernés?
Alors les États, ils ont une double responsabilité. Si on regarde du côté des consommateurs, et encore une fois, nous en sommes historiquement, finalement, nous les Européens, on est les premiers émergents depuis le 19e siècle. On a brûlé à peu près tout ce qu'on pouvait brûler et sur quoi on avait la main. Je sais pas, en France, on a arrêté de produire du gaz fossile, d'extraire du gaz fossile en 2013 au gisement de Lac, et à partir de là, on a à peu près tout brûlé. Donc il y a un premier étui de responsabilité qui incombe aux émetteurs historiques. Et d'ailleurs, l'accord de Paris prévoit à cet égard une clause qui est que les émetteurs historiques qui ont une responsabilité doivent contribuer au développement, aux stratégies de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation des pays du Sud.
Mais
et
ça, ce sont les États ou les sociétés occidentales dans leur ensemble?
Alors, c'est la somme. Vous prenez les pays de l'OCDE et vous avez une bonne approximation de ce dont je suis en train de parler. Après, il y a une autre question qui est en train de se poser à l'heure actuelle, c'est qu'on voit dans des tas de pays, de petits pays, le Guyana, le Suriname, des pays africains, on voit apparaître des stratégies, alors on a découvert beaucoup de pétrole, et on voit apparaître des stratégies d'extraction. Et la question qui vient se poser, encore une fois, compte tenu de la responsabilité historique de l'Europe, des États-Unis notamment, à quel titre nous sommes fondés à interdire dans ces pays l'extraction de leurs ressources et leur valorisation? C'est un enjeu qui est un enjeu essentiel. Alors ça peut se résoudre, il suffirait pour ça qu'on assume nos responsabilités. L'accord de Paris, on a fait des évaluations, il faudrait transférer du nord au sud en 2035 à peu près 1300 milliards de dollars par an. C'est ce qu'on estime être le besoin. Si on parvient à faire face à ça, eh bien on peut mettre à l'abri pas mal des pays du Sud et empêcher l'extraction de ces ressources. Mais ce n'est pas la direction, à l'évidence, vers laquelle on va.
48 pays hébergent une bombe carbone sur leur sol, l'Anacrétie. Là encore, comment est-ce que vous qualifiez vous-même la responsabilité des États concernés?
Alors, il y a la responsabilité, on va dire, décentralisée, les pays du Sud que Patrick citait, qui sont dans lesquels la plupart de ces bombes carbone sont localisées. Mmh. Effectivement, il y a les raisons physiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exploité jusqu'à présent leur potentiel géologique, et donc ils décident d'en avoir aussi des revenus, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des concessions, mais les coûts de la concession est largement inférieur à ce qui est assuré par la vente en elle-même pendant des années des hydrocarbures. Et il y a aussi le fait qu'ils acceptent des alliances, parce qu'il n'y a pas que les compagnies locales qui interviennent. Donc toutes les bombes climatiques sont des consortiums entre des compagnies pétrolières nationales dans les pays du Sud et des compagnies pétrolières du Nord. Donc vous voyez que la ligne rouge est toujours très difficile, et il y a quand même un élément sur lequel il est important de se rappeler pour la responsabilité des États. Ça fait longtemps qu'on cherche dans les COP à mettre en œuvre cette idée de se passer, avec différentes nuances du s'est passé des énergies fossiles. Si on arrivait à faire quelque chose qui soit cet effet-là de lock-in dont on parlait, mm-hmm. mais qui soit ratifié avec à une COP, je pense que la responsabilité des pays serait vraiment utilisée de façon utile.
Un objectif annoncé donc peut-être pour la prochaine COP qui se tiendra au Brésil dans quelques jours. Merci à vous deux. Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur de l'équipe Énergie Climat, et Anna Créti, directrice de la chaire d'économie du climat à l'Université Paris-Dauphine. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Juliette Mouélic. Et à suivre après le journal Joyau de la Couronne, on va faire de l'histoire pour tenter de comprendre comment la République a soldé l'héritage monarchique.